Grâce en liberté. Une émission pour déménager la biologie. Voilà. La biologie s'occupe de nous, nous allons nous occuper de la biologie. Car en observant de plus près la vie des animaux qui nous accompagnent sur cette terre, certaines notions apparemment scientifiques paraissent incongrues. Il semble que l'on ait toujours cherché à tirer des énoncés normatifs à partir des descriptions de la nature. Et la science se confond avec une histoire beaucoup plus idéologique qu'on ne l'admet souvent. C'est ce dont nous allons parler entre 18h et 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Science en liberté, une émission animée depuis l'Anjou par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. Je suis Thierry Laudet pour animer une émission où nous nous amusons à questionner la biologie pendant 1h30. Ravi de vous retrouver pour cette émission. Et aujourd'hui, entre chiens et chats, la société mixte des babouins. Sous le soleil brûlant du désert, les babouins Hamadryas dorment. Sur ces falaises escarpées bordant la petite ville de Taïf en Arabie Saoudite, les babouins ont élu domicile, profitant d'une manne inespérée. Car ici, les bédouins, depuis longtemps sédentarisés, laissent volontiers leurs déchets alimentaires en pâture aux babouins. Mais voilà, des chiens revenus à l'état sauvage semblent aussi vouloir en profiter. Bien que la société des babouins soit fortement structurée autour de groupes familiaux défendus par les mâles, les babouins connaissent des prédateurs. Léopards, hyènes rayées, loups et chiens figurent parmi leurs ennemis ancestraux. Pourtant, le cinéaste Jean-François Barthod y a saisi des images tout à fait étonnantes lors de son reportage de 2015. Tout d'abord, les chiens ont adopté la falaise des babouins pour prendre leur sommeil. Si les babouins se réfugient dans l'anfractuosité des rochers le plus haut possible, c'est-à-dire pour essayer d'échapper à leurs prédateurs, et pourtant, il n'y a aucun doute. Les babouins accueillent les chiens et les chiens dorment au milieu du groupe. Ce n'est pas tout. Alors que certains chiens à l'état sauvage chassent et dévorent les jeunes babouins qu'ils attrapent en tant que leurs prédateurs, ici, d'autres chiens accompagnent les babouins. Lorsque l'heure se pose d'aller chercher l'abondante nourriture déposée au bas de la falaise, les babouins s'y font escorter par des chiens. Et les images du réalisateur sont sans équivoque. Ces chiens-là gardent à distance les autres chiens redevenus sauvages, protégeant de leurs aboiements la troupe entière des babouins. Cette histoire illustre la subtilité des relations qui existent dans la nature, mais elle semble dépasser largement le sens que leur attribuent les primatologues interrogés dans ce passionnant reportage. D'ailleurs, une troisième espèce vient se loger au milieu des babouins pour profiter de l'organisation de la bande. Ce sont des chats arrêts. C'est-à-dire des chats domestiques retournés à l'état sauvage, et ça constitue le troisième protagoniste de cette incroyable aventure. C'est que les interactions entre les espèces s'avèrent bien plus complexes que ce que la biologie affirme en première lecture. Nous allons voir que le plus intéressant n'est pas forcément constitué par l'accueil obligé que nos babouins font aux chiens et aux chats arrêts, mais bien davantage par la différence comportementale qui s'est insinuée entre les chiens sauvages prédateurs et les chiens sauvages protecteurs de babouins. Et curieusement, cette histoire d'interaction entre espèces se répète beaucoup plus souvent qu'on ne pourrait le supposer, entre cerfs, cicas et langurs, et même entre blaireaux, loups et coyotes. Cela sent bon le déplacement de caractère, sans compter que l'adoption contredit la théorie de la parentèle au profit du rôle de la familiarité en évolution. Ainsi semble se former ce que les biologistes appellent des sociétés mixtes, que toutefois des espèces solitaires partagent également, démontrant combien les interrelations abritent de l'écologie évolutive sur l'ensemble de la planète. Il sera donc question de ratels et d'abeilles, de dicknèmes et de crocodiles, car nous sommes sur Radio Libertaire au milieu d'une interrogation gourmande entre chiens, loups et babouins.
C'était The Village Thumpers, Green Green. Bonjour, nous revoilà sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, où nous nous amusons à décortiquer la biologie. Aujourd'hui, dans notre nouvelle émission de Science en Liberté, nous allons parler de sociétés mixtes formées de plusieurs espèces. Alors Thierry, j'ai pu regarder avec toi ce reportage stupéfiant de 43 minutes sur Arte, intitulé Quand les babouins adoptent des chiens. Mais oui, Jean-Paul Berthaud a filmé les relations bizarres qui unissent les babouins et les chiens en Arabie Saoudite. À écouter les commentaires, on aurait dit que les babouins auraient tout simplement domestiqué ces chiens revenus à l'état sauvage. Est-ce que c'est parce que les babouins sont des primates qu'ils agissent ainsi ?
Eh bien, Siona, bonjour. Nous allons voir que dans cette interaction, l'humain a un rôle important, à la fois au départ, parce qu'il a domestiqué ses chiens, qui sont ensuite redevenus sauvages, et ensuite à cause de la nourriture que les humains, que les bédouins qui se sont sédentarisés dans cette vie de Taïfa déposent. Mais pour cela, il faut quand même comprendre un petit peu ce qu'est la vie normale de ces babouins.
Oui Thierry, ce sont des babouins madrias qui ont la particularité de vivre sous le climat désertique de l'Arabie Saoudite.
En effet Siona, les babouins, ce sont ici des papios à madrias, ont une aire de répartition partagée entre l'Éthiopie et la péninsule arabique. Ils se rencontrent dans la corne de l'Afrique, autour de la mer Rouge, et sont caractéristiques de ces régions arides. Alors, durant la saison sèche, les babouins vont principalement manger des feuilles et piller quelques nids d'oiseaux. Les amadrias sont aussi capables de manger des insectes, des reptiles, des petits mammifères et bien entendu parfois des petites antilopes. Mais s'ils vivent dans un habitat aussi aride, ils ont besoin de deux conditions naturelles. Tout d'abord, il faut qu'ils dorment dans des anfractuosités de hautes falaises qu'ils vont regagner tous les soirs. C'est pour échapper principalement à leurs prédateurs. Alors ce sont de vrais acrobates sur ces rochers escarpés, hein, bien que certains d'ailleurs peuvent parfois y perdre l'équilibre. Mais ils ont appris à escalader ces falaises parce que des prédateurs de ces singes sont nombreux, léopards, les hyènes et les chiens. Ensuite, il y a une seconde condition qui est nécessaire pour Papio Amadrias pour vivre dans ces régions, c'est qu'ils doivent disposer d'un point d'eau permanent. Ça, c'est évidemment le facteur clé. Là, en l'occurrence, à côté de la petite ville d'Haïfa, il y a ce point d'eau permanent qui va les stabiliser. Ça constitue également un problème, puisque le point d'eau lui-même peut devenir attractif pour d'autres espèces, y compris leurs fameux prédateurs.
Effectivement, Thierry, qui sont ces prédateurs ?
Alors, bien que les adultes puissent parfois être capturés, la plupart des prédateurs s'en prennent plutôt aux femelles et surtout aux jeunes, qui sont beaucoup plus vulnérables. Il y a des serpents, il y a des rapaces, mais les prédateurs les plus courants sont vraiment le léopard, le loup gris, le loup d'Abyssinie, qui est une autre espèce que le loup, la hyène rayée, qui est une hyène qui chasse en solitaire, et puis surtout, ces fameux chiens redevenus sauvages, hein, des chiens errants qui circulent un peu partout, qui forment des bandes. Des prédateurs comme le léopard et la hyène vont les surprendre au cours de randonnées solitaires, plutôt lorsqu'ils vont rentrer le soir. Et puis les babouins ont appris aussi à s'associer entre mâles pour essayer de leur résister. Les mâles forment un petit groupe qui va faire beaucoup de bruit contre le léopard et peuvent empêcher le léopard de s'attaquer aux jeunes. Les mâles sont en effet beaucoup plus grands que les femelles et la coopération entre les mâles est aussi assez efficace contre les loups et contre les chiens.
Si les mâles de babouins à madrigal sont grands et forts, est-ce qu'on peut parler d'un rôle sexuel dans cette différence de taille ?
Oui, Siona, bien sûr. Les mâles adultes pèsent une vingtaine de kilos contre 12 seulement chez les femelles.
Oui.
Ce dimorphisme sexuel, c'est toujours le signe d'un conflit sexuel entre les mâles et les femelles. Les mâles sont adultes vers 5 ans et entre eux, ils sont également très agressifs. Ils disposent d'une grosse crinière, vous savez, sur le cou et sur le dos, qui les caractérise vraiment, ces babouins madrigas. Alors ce conflit sexuel est assez proche de celui qui conditionne la vie chez les lions. En effet, les femelles et leurs jeunes se rassemblent en petites troupes qui vont accueillir un ou deux mâles seulement. Ce nouveau ou ces deux nouveaux mâles associés vont chasser l'ancien mâle présent pour, en quelque sorte, disposer de l'ensemble du groupe des femelles. Ce qui n'est pas une mince affaire, car l'ancien mâle va se défendre âprement et est très vindicatif, et même parfois peut-être aidé par quelques femelles. Mais lorsque les nouveaux mâles réussissent à évincer le vieux mâle du groupe, ils vont chercher un à un les petits babouins déjà nés pour les mettre à mort.
Ah oui, ça se passe aussi chez les lions, mais pourquoi font-ils cela ?
Alors l'infanticide existe chez beaucoup d'espèces, hein, depuis les zèbres ou chez les lions bien sûr, et l'on retrouve chez vraiment beaucoup d'espèces, notamment chez les mammifères. Les zoologues considèrent que c'est un moyen pour les nouveaux mâles de s'assurer d'une future paternité à eux. En effet, ils ne savent jamais s'ils sont vraiment les mâles fécondants. Pendant l'allaitement, les femelles en plus sont infertiles, c'est le rôle de la prolactine. Aussi, quand les femelles n'ont plus de petits, elles deviennent rapidement réceptibles aux avances de ces nouveaux mâles. On appelle cela un conflit sexuel, on en a déjà parlé, parce que chacun des deux sexes peut réduire la reproduction de l'autre. Le mâle, en tuant la progéniture des femelles, va réduire sa reproduction, mais les femelles, selon qu'elles font un choix pour un mâle ou pour un autre, d'en avoir affaire qu'avec un seul mâle, les autres ne se reproduisant pas.
En plus, j'ai vu que des mâles pouvaient s'emparer de petits pour se protéger.
Alors ça, c'est assez caractéristique des babouins madrigas, ça c'est chez eux que ça a été principalement découvert. Des mâles agressés savent parfaitement attraper un juvénile, un jeune babouin, pour limiter les agressions d'un autre mâle. Il va ainsi se promener avec le juvénile et le bébé dans les bras, et donc l'autre mâle va être inhibé par le fait qu'il ne peut pas attaquer le petit en même temps qu'il a le mâle à le petit dans les bras. Mais la société des babouins connaît aussi d'autres violences, puisque des mâles peuvent enlever des jeunes pour forcer la femelle à copuler avec eux.
Ou encore, c'est violent, ça.
Ah, c'est très violent. Ou encore, des femelles peuvent aussi kidnapper d'autres femelles, notamment pour les élever à leur place, etc. Alors, tous ces raptes et ces batailles qui vont structurer la société des amadrias existent au sein d'autres relations beaucoup plus apaisées. Les jeunes bénéficient souvent du soin de leur tante, de leur cousine, comme chez la plupart des primates, hein, et constituent un point d'attraction si fort que souvent ils sont dorlotés par beaucoup d'autres individus de la bande. Enfin, les câlins, qui comportent tout autant des toilettages que des activités sexuelles plus ou moins simulées, hein, selon l'âge des individus, sont aussi très présents dans la société des babouins. Et comme la plupart des primates, les babouins restent très tactiles. Le toilettage où l'on caresse et épouille l'autre est une activité sociale ultra importante chez les babouins.
Oui, là c'est une activité plus paisible. Le toilettage est ce qui rapproche les individus et favorise les relations étroites.
Oui, d'ailleurs l'auteur du reportage nous fait même remarquer que cette activité de toilettage a le même rôle que le bavardage chez les humains, ce qui est très finement observé. Ces toilettages renforcent l'ensemble des relations entre les individus, favorisant les affinités ou au contraire les inimitiés. C'est un peu comme des femelles prenant le thé ensemble chez les humains. Deux individus s'épouillent pour faire connaissance, pour renforcer leurs liens. Et on s'épouille ici, chez les babouins. Le toilettage, le grooming, constitue une marque des relations interindividuelles et des affinités sociales. Alors, il s'effectue surtout entre apparentés, mais c'est principalement une marque de familiarité entre des individus qui sert à la fois d'apaisement, qui traduit leur degré d'affinité, de familiarité et d'amitié. Un individu peut ainsi en toiletter un autre pour lui montrer qu'il est parfaitement d'accord avec ce qu'il vient de dire, ce qu'il vient de faire.
Mais ils ont aussi des relations amoureuses. Comment et à quelle période se passe la copulation ?
Alors chez les babouins, la copulation n'est pas saisonnière. Elle se déroule toute l'année, mais il est parfois difficile de faire la différence entre des simulations de copulation généralement très brèves, de vraies copulations sexuelles pour le plaisir, et des copulations reproductives. En effet, les babouins pratiquent volontiers des simulations ou des pseudo-copulations qui correspondent en quelque sorte à nos petits baisers entre partenaires, voire entre petits jeux sexuels entre jeunes et adultes. Ces simulations de copulation existent aussi entre individus copains, copines, juste pour marquer leur instant, les moments où ils sont. Les babouins pratiquent en même temps de vraies copulations sexuelles, très brèves, sans qu'il y ait forcément éjaculation entre les partenaires. C'est par exemple le cas chez les jeunes mâles, qui peuvent profiter d'une occasion d'avoir une petite femelle disponible à un moment donné. Enfin, la reproduction proprement dite se fait généralement entre le grand mâle et ses femelles, bien que la structure du harem polygame traditionnellement décrite est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on nous décrit simplement. En fait, l'unité sociale des babouins est souvent composée d'un groupe familial qui va associer des femelles reproductrices et des femelles non reproductrices, mais aussi leurs jeunes. Et parfois, il peut y avoir un ou deux autres mâles adultes associés. On suppose que ces mâles associés sont assez complices avec le grand mâle supposé dominant, mais parfois, la hiérarchie n'est pas si visible entre ces mâles et on peut dire que les deux mâles ont des relations à peu près égalitaires. Les femelles en chaleur exhibent une très forte congestion de la vulve, comme chez beaucoup de primates, ce qui facilite bien sûr le fait pour le mâle de savoir que la femelle est disponible pour un accouplement reproducteur.
Mais alors, cette forte congestion indique que la femelle est prête à la copulation?
C'est pas tout à fait aussi simple. On sait que la congestion des organes génitaux constitue un indicateur de la réceptivité de la femelle, mais la durée de cette congestion n'est pas corrélée parfaitement avec l'ovulation, ce qui va donc obliger à des copulations hors couple et à multiplier les copulations au sein des mêmes individus de la même famille. On attribue souvent à cette congestion un rôle important pour déjouer les infanticides des mâles. Car comme la femelle indique « je suis disposée pour copuler », les mâles ne vont pas essayer évidemment de tuer les petits, puisque tuer les petits, c'est arrêter l'allaitement, arrêter la femelle, et donc essayer d'attendre qu'elle reprenne son cycle. Là, elle est déjà prête, il n'y a donc pas de problème. Aussi, en revanche, les paternités vont être troublées, les mâles ne sauront pas exactement ce qu'il en est. Mais chez les babouins, les relations sont très surveillées. C'est ce qu'on appelle le mate-guarding. Mate-guarding qui va permettre au mâle d'accompagner la femelle, de la surveiller. Et il est vrai que les mâles ont aussi un rôle très important dans la protection contre les prédateurs.
On grogne au petit matin,
c'est notre côté chien.
Sous les draps,
c'est notre côté chien.
On patauge dans le bain,
c'est notre côté chien.
Vous vous poudrez le minois,
c'est notre côté chien.
Belles nous sommes et parfois vous griffez, on aboie. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien.
C'est notre côté chien.
Vous l'avez plus délicat,
c'est notre côté chien.
On s'énerve pour un rien,
c'est notre côté chien.
Vous gardez votre sang-froid,
c'est notre côté chien.
Belle, tout somme des parois, vous riffez dans la voix. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien.
C'est notre côté chien.
Vous vous glissez dans ses bras,
c'est notre côté chien.
Bête, nous sommes et parfois vous griffez et on la voit. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien.
bien quand on vous tient.
C'est notre côté chien.
Vous vous jouez de notre émoi.
C'est notre côté chien.
On frétille et puis plus rien.
C'est notre côté chien.
Vous prolongez les ébats.
C'est notre côté chien.
Belle, tout semble parfois. Vous griffez, on aboie. C'est humain, on le sait bien. Entre chat et chien. Nous sommes les parfois, vous griffez et on la voit. C'est humain, on le sait bien, entre chat et chien.
Et nous sommes toujours entre chien, chat et chien, par Marc André et Sébastien Pérez. Alors Thierry, nous allons décrire maintenant cette relation fascinante que nous a révélée le reportage de Jean-François Barthaud entre les babouins et les chiens. Tout cela se passe à Taïf, en Arabie Saoudite, où vivent les babouins à Madrias.
Oui, alors Siona, il faut expliquer que les babouins à Madrias présentent une organisation sociale assez peu commune parmi les primates. Ils ont en fait un système à plusieurs niveaux, dont l'unité de base est nommée le harem. C'est en fait le groupe familial. La société des babouins est en effet patriarcale et l'unité familiale est constituée de 1, 2 ou 3 mâles associés avec un groupe de femelles et leurs jeunes. Typiquement, on qualifie de mâle dominant le grand mâle du harem, mais il existe souvent, on l'a vu tout à l'heure, un autre mâle, ce qu'on appelle le follower, qui est parfois plus jeune, qui participe à la défense du groupe et qui parfois a des relations sexuelles avec les femelles.
C'est celui qui suit.
C'est celui qui suit, le follower, voilà. Ces petites unités familiales, qu'on appelle harem, se rassemblent pour former un deuxième niveau d'organisation qu'on va appeler le clan. Chaque clan comprend plusieurs harems, dont les mâles sont souvent apparentés. Ça peut être des frangins, des cousins. Et donc, il va exister une défense collective de tous les mâles pour protéger le clan. Toutefois, à l'intérieur du clan, on constate aussi qu'il y a des formes de hiérarchie assez peu stables, plutôt liées à l'âge, où ce sont les mâles les plus vieux, donc les frangins les plus vieux le plus souvent, et les femelles les plus âgées, qui vont, la plupart du temps, initier les décisions. Tiens, on n'y va pas, on va manger, on bouge du, on va dormir là, etc. Ensuite, ils vont s'installer sur des rochers très escarpés, et sur ces rochers-là, évidemment, ils vont être en quelque sorte les propriétaires du lieu et capables de bien se défendre. Les individus quittent rarement ce clan, et cette super famille donc, qui est élargie, c'est celle qui a le rôle prépondérant dans la structure sociale. C'est vraiment celle qui constitue la base de l'organisation sociale des babouins. Ensuite, plusieurs clans vont former ce qu'on appelle une bande. Alors ça, c'est plus ou moins lâche. Hein. C'est une organisation sociale beaucoup moins affinitaire. Les relations entre les mâles peuvent être beaucoup plus tendues, d'ailleurs. Et c'est un peu comme des quartiers peuvent participer d'une ville, quoi, vous voyez. Donc c'est évidemment un petit peu différent. Dans ces ensembles, les leaders de harem et les petits groupes de mâles célibataires peuvent être ensemble, se côtoyer. Et du coup, il va y avoir évidemment des bandes qui vont s'incorporer aussi des femelles isolées, des individus plus vieux, des mâles solitaires, des petits groupes de célibataires, puisque le propre de la société polygame est évidemment de rejeter beaucoup de mâles pour que certains disposent d'un harem. On voit donc que ces structures-là vont être beaucoup plus conflictuelles, avec parfois beaucoup plus de tensions. Et là, effectivement, les défenses sont moins collectives, les animaux ont plus tendance à éclater la bande lorsqu'ils sont poursuivis ou lorsqu'il y a des attaques. Alors, toutefois, ces grandes bandes qui vont quand même incorporer des juvéniles sont celles qui descendent ensuite à la recherche de nourriture. En l'occurrence, elles descendent à la ville, elles descendent à Taïf pour aller chercher la nourriture qu'ont déposée les bédouins. Et ce sont ces grandes bandes également là qui vont se retrouver ensemble pour retourner sur leur rocher pour dormir. Toujours dans une structure très lâche puisque chacun va rejoindre son quartier. On l'a vu tout à l'heure, c'est le clan qui constitue l'élément principal. Alors, à ces trois niveaux d'organisation se rajoute un quatrième et dernier niveau d'organisation qu'on appelle la troupe. La troupe, c'est le rassemblement complet de plusieurs bandes dans des zones favorables. Par exemple, sur les zones d'alimentation, quand les bandes se rencontrent entre elles, ou encore celles qui vont utiliser un même dortoir tout en fréquentant des zones différentes. Donc, on voit ici qu'il y a effectivement une structure sociale relativement large qui permet évidemment de penser que la société des babouins est relativement complexe. En plus, à l'intérieur des clans et même des harems, il y a donc plusieurs mâles. Plusieurs mâles, plusieurs femelles qui vont cohabiter avec ce qu'on appelle les dominants. Ceux qui ne sont pas considérés comme dominants, ce sont les followers, vont malgré tout construire des liens très forts avec celui qu'on nomme ou ceux qu'on nomme les dominants, parce qu'ils vont participer à la défense du harem, voire à la défense du clan, contre les intrus. Mais ce sont si ces mâles dits followers, suiveurs, qui peuvent intriguer pour s'emparer ensuite d'un autre harem, voire même essayer de faire un putsch pour exclure l'ancien mâle. En fait, oui, on est trahi que par ses propres amis, plutôt que par des extérieurs. Ces mâles suiveurs peuvent aussi former un harem avec de jeunes femelles encore immatures, avec lesquelles ils vont tisser des liens. Mais parfois, ils pratiquent le rapt des jeunes femelles ou de leurs petits.
Et les femelles peuvent aussi pratiquer ce rapt.
Oui, s'il y en a. Et c'est là qu'interviennent nos fameux chiens. Quand on regarde le reportage de Jean-François Barthod, on s'aperçoit que les chiens qui vivent dans les bandes de babouins à Madrias défendent le harem comme s'ils en faisaient partie. Ces chiens semblent vraiment les chiens domestiques du harem. Les chiens accompagnent les clans sur les lieux de l'alimentation et défendent leur clan contre tous les prédateurs.
Le reportage montre ainsi que les chiens qui poursuivent une hyène rayée, vaguement aidés par quelques mâles, sont vaguement aidés par quelques mâles, en fait, dominants.
Oui, Tiona. En fait, les chiens de ces harems éloignent aussi les chiens sauvages qui pourraient s'en prendre au bébé à Madrias quand la troupe va manger. Tous ces prédateurs cherchent à s'attaquer aux animaux égarés ou affaiblis. Alors là, on les voit en effet poursuivre une hyène à un moment donné. On peut donc dire que les chiens ont avec les babouins des relations assez semblables que ce qu'auraient, par exemple, les chiens de chasse ou les chiens de garde avec les hommes. Les chiens se nourrissent avec les babouins sur la zone d'alimentation, car ce sont les humains qui délivrent de la nourriture dans ce secteur. Et comme cette nourriture est très abondante pour les babouins, cela accroît la tolérance entre les babouins et les chiens. Mais attention, ce sont bien les babouins qui contrôlent les chiens. Et cela à deux occasions. D'une part, c'est eux qui tolèrent que les chiens prennent leur repas avec eux sur cette zone, lorsque la nourriture a été déposée par les bédouins. Et les babouins contrôlent l'accès à la nourriture, même pour les chiens. Ils sont très tolérants. Plusieurs images nous montrent que les babouins se réservent certaines ressources en priorité. Le deuxième point de contrôle consiste dans l'introduction des chiens. En effet, les chiennes mettent bas à l'intérieur du groupe lâche, mais généralement, les chiots sont disposés et nourris par le lait maternel pendant toute cette période-là. Ensuite, quand ils sont sevrés, les babouins peuvent s'emparer de leurs chiots, et c'est là qu'on voit des femelles de babouins attraper sans ménagement des jeunes chiots, les emmener dans leur groupe et les garder au sein de la famille étendue, d'une manière très autoritaire. Le petit chiot va être élevé avec les babouins. On comprend alors que ce chien retrouve son passé d'animal domestique, en quelque sorte, en étant élevé non plus par des hommes, mais par des babouins.
Un chercheur, d'ailleurs interrogé dans le reportage, explique que les babouins et les chiens forment une société mixte, rassemblant plusieurs espèces qui bénéficient les unes des autres.
Alors c'est vrai qu'on parle souvent de société mixte et que cette société interspécifique pose plein de questions évolutives passionnantes. Mais pour ma part, je ne pense pas qu'il s'agisse de ce qu'on appelle une société mixte. Car ici, les chiens sont incorporés presque de force à l'intérieur de la société des babouins. Ces chiens sont donc familiarisés au sein du groupe et viennent à le défendre, comme ils le feraient en fait dans un groupe humain.
En quelque sorte, les chiens sont domestiqués par les babouins.
On pourrait presque dire ça, oui, Siona. Et la même chose se passe pour les chats qui vont être incorporés après dans cet ensemble mixte. Mais si les chiens sont principalement associés à la surveillance et à la protection des babouins, le rôle assigné aux chats est tout autant remarquable. Un peu comme chez les humains, les chats semblent utilisés, dans le cas des activités de toilettage notamment, juste pour les caresser et jouer avec eux. Ce sont pourtant des chats arrêts, c'est-à-dire des chats anciennement domestiques, redevenus sauvages, qui sont aussi capturés et tolérés à cause de l'intense activité de grooming, de toilettage que les babouins présentent. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que les chats et les chiens vont se tolérer ensemble parce qu'ils vont retrouver leurs caractéristiques domestiques familières. Le chat ne sera plus poursuivi par le chien qui vit dans
le
harem des babouins.
C'est quand même très étonnant, en fait.
Tout ça à cause de ces deux activités principales, le rapt et le toilettage. Et ces deux facteurs vont évidemment être importants dans la possibilité d'associer les chiens, les chats et les babouins. Et puis évidemment, on voit cette fameuse scène où on voit une hyène rayée qui tente de s'emparer d'un bébé babouin et qui est tout de suite poursuivie par des grands mâles de babouins, certes, mais surtout suivie par les aboiements de plusieurs chiens qui participent de la bande et qui vont poursuivre la hyène et la poursuivre jusqu'à ce qu'elle se parte, jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'évader et partir très très loin de l'endroit où sont nos chers petits babouins.
En fait, l'union entre les chiens et les babouins, c'est en fait une union de force qui donne une certaine résistance par rapport à des espèces dangereuses.
Voilà, alors c'est vrai qu'ici, on a affaire à une société de babouins très structurée qui va former donc d'abord ses harems, puis ses petits clans. Et dans, au sein des clans, on voit bien que les chiens sont parfaitement intégrés comme faisant partie des éléments de force. Ce sont vraiment les chiens de défense et de garde des babouins. Avec les chats, on a vu que c'était un petit peu plus complexe parce que ça semble former une nouvelle organisation sociale. Mais évidemment, cet ensemble-là repose beaucoup sur la thématique hiérarchique des différentes intégrations des babouins, entre d'abord le harem, puis le clan, puis la bande. Et on voit très bien que c'est au niveau de la bande que l'effet sera le plus efficace. Après, évidemment, il faut encore approfondir tout cela pour mieux comprendre le sens de ces étonnantes associations, Siona.
Interprété par Nightwish. Nous revoilà sur 89.4, une radio associative pas comme les autres. Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans maître, sans dieu et sans publicité. Dans une émission pour vous, les aventuriers de l'esprit, science en liberté, tous les seconds lundis de chaque mois. Alors Thierry, la société mixte que forment les babouins et leurs chiens de défense et leurs chats, est-elle le prémisse d'une nouvelle organisation sociale ou bien est-ce quelque chose qu'on trouve souvent dans la nature ?
Alors, Siona, ce qui frappe au premier abord, c'est évidemment la complexité de cette grande organisation sociale qui incorpore plusieurs espèces, d'où l'idée de société mixte, et qui pourrait paraître être un miroir de nos sociétés humaines. Parler de société mixte, ce serait dire que les chiens, les chats et les babouins constituent une association sociale où chaque participant bénéficie vraiment de l'autre. C'est à la fois vrai et insuffisant. En effet, ces animaux ont une vie sociale organisée autour des grands groupes, et ce sont les bandes qui incorporent d'autres espèces, ici les chats et les chiens. Mais les images, et notamment les images dans les versions non diffusées et dans la version longue du documentaire, révèlent combien ce sont des harems de babouins qui maîtrisent et incorporent les chiens. Ici, il faut se rappeler que la décision va appartenir principalement aux individus adultes. Et ce sont ces individus adultes du harem qui vont vraiment disposer de la décision. Les chiens retrouvent ainsi leur rôle d'animaux domestiques. Les chiens sont enlevés par des femelles, emmenés dans le harem et vont être élevés par le groupe. La vie sociale fournit un cadre assez particulièrement efficace pour favoriser cette relation. Mais on peut aussi retrouver des interactions assez semblables, par exemple chez les langurs et chez les antilopes.
Les langurs sont des singes habitants en Inde et qui sont surtout arboricoles et frugivores.
Arboricoles et frugivores, oui, s'il y en a les langurs Hanuman et le cerf chital, donc le cerf axis, on le dit également comme ça, et pour le langur, on l'appelle aussi l'antelle, sont connus pour former des associations. Les langurs consomment des fruits, et donc pour cela, ils enlèvent les déchets, et les déchets tombent sur le sol, et les cerfaxis vont venir consommer au bas des arbres où sont les antelles tous ces déchets.
Pratique.
Il y a donc un bénéfice pour le chital, qui peut consommer des fruits qu'il ne pourrait pas obtenir parce qu'il ne grimpe pas aux branches des arbres. En outre, le cerf est aussi protégé par le comportement de vigilance du langur, puisque le singe va émettre des cris d'alarme à l'approche, par exemple, d'un prédateur, un léopard ou un tigre. Les langureux ne bénéficient que du comportement de vigilance de la part des cerfaxis. Et ce n'est pas très évident qu'ils soient beaucoup attaqués par des prédateurs terrestres puisqu'ils sont arboricoles. Donc on n'est pas très certain que ce bénéfice soit important. De la même manière, on trouve d'autres singes. Par exemple, les Luntung de Java, ce sont des singes qui forment aussi des associations avec le cerf Russa, le Russa timorensis de Timor. C'est des cerfs qui peuvent glaner jusqu'à 39 espèces de plantes à partir de ce que les Luntung consomment.
Mais ces organisations mixtes sont causées par quoi dans la nature ?
Ah ben voilà, c'est d'autant plus surprenant ces associations mixtes que le plus souvent les bénéfices paraissent assez faibles. Si dans le cadre des symbioses on voit très bien que les bénéfices sont intégraux entre les deux espèces qui vont bénéficier l'une de l'autre, il y a ici des bénéfices apparemment très faibles, des avantages très discutables. On va donc essayer de se pencher vers d'autres explications. Par exemple, on a une synthèse de nombreuses associations entre les ongulés, des oiseaux et des primates, et on sait qu'à partir de 19 cas, on a montré que les bénéfices étaient si faibles pour les singes que dans la plupart des cas, on n'en comprend pas le sens. Les chercheurs ont mesuré ces avantages en termes de surveillance des prédateurs, en termes d'acquisition de la nourriture. En ce qui concerne la vigilance, les bénéfices passent quasiment pour nul pour les singes. Et ils sont assez peu crédibles pour les ongulés qui ne décryptent pas toujours le sens des cris d'appel. Par exemple, les singes peuvent faire un cri d'appel différent pour un serpent et pour un tigre. Or, évidemment, les ongulés, eux, n'entendent que le même cri d'appel. Donc, ils vont s'enfuir beaucoup plus souvent et c'est donc pas très, très pratique. Ensuite, en ce qui concerne l'acquisition de la nourriture, les oiseaux ou les antilopes étudiées vont trouver un accès certain à des fruits et à des graines décortiquées par les singes. Mais là encore, on n'est pas trop certain que ce soit une véritable différence dans la qualité de nourrissage entre les groupes mixtes et les groupes non mixtes. Les groupes non mixtes vont peut-être avoir tout un ensemble d'autres avantages de nourriture. Ici, il semble bien que les avantages ne sont pas des bénéfices ni en termes de vigilance, ni en termes d'acquisition de nourriture, ou qu'en tout cas, ces avantages sont certainement d'un autre ordre.
Oui, car il y a quand même beaucoup d'associations mixtes entre les animaux. Les humains ont quand même tiré parti des chiens au cours de leur histoire, finalement.
Et oui, ce nombre d'associations mixtes est très commun dans la nature. On les trouve très souvent. Il faut donc évidemment comprendre le sens de ces associations qui ne paraissent absolument pas cadrées avec les théories habituelles. Alors, on connaît aussi l'association de chasse, par exemple, qui est pratiquée entre les humains imragen des côtes de Mauritanie et les dauphins. Les dauphins vont repousser les bancs de mulets vers la plage. Le mulet, c'est un poisson. Ils vont acculer ces mulets ainsi sur les bas-fonds, et les filets des imragen vont avoir tous ces poissons qui leur pénètrent, puisque ça leur permet d'accéder à ces bancs dans des eaux qui sont assez peu profondes pour qu'un humain puisse marcher. Et donc, à chaque fois, ces associations sont caractérisées par une certaine forme d'asymétrie, car là, ce sont plutôt les humains qui vont bénéficier de l'effort des dauphins qui vont envoyer les poissons sur la plage, ou encore les cervidés qui profitent des restes de végétaux. consommée par les singes.
En même temps, c'est le mode de chasse des dauphins qui fait que pour eux, il y a rassemblement aussi de la proie. Donc, quelque part, ils ont plus de proies disponibles.
Alors, c'est fait que les mulets se chassent en banc. C'est vrai que le fait d'acculer le banc à la plage, ça permet aux dauphins de récupérer plus facilement les mulets. Mmh. Mais les hommes, là-dedans, ne voient pas trop pourquoi les dauphins les tolèrent et, et pourquoi ils le font dans les endroits où les imraguènes pêchent. Chez les babouins d'Arabie, on est également dans des relations étonnantes parce qu'on est plus proche de relations mutuelles, dites de commensalisme. Le commensalisme, c'est quand une souris vient manger ton grain que tu as caché dans ta petite boîte, que d'un mutualisme social où toi, tu donnerais toi-même à manger à ta souris. Bon, ici, chez les babouins d'Arabie, les singes et les chats, les groupes sont imbriqués les uns dans les autres et les singes vont bénéficier de la protection des chiens, monnayant juste un peu de nourriture. Alors, on comprend évidemment qu'il y a là pour les chiens un intérêt à développer ces relations mutuelles.
Mais ces relations mutuelles ont-elles un intérêt pour comprendre l'évolution ou sont-elles un accident de la nature ?
Alors, c'est effectivement le moment important de la discussion, parce que jusqu'à présent, tous ces éléments-là étaient passés pour des sortes d'anomalies de la nature. Des animaux qui font des petites choses étonnantes ou bizarres. Tiens, c'est rigolo. Finalement, les animaux s'aiment bien. Alors qu'on s'attendrait, bien entendu, à retrouver cette fameuse loi de la jungle, tant surtout entre chien et chat, sur lequel insiste beaucoup Darwin. Et en fait, en plus, là, on a affaire quand même à des animaux prédateurs, c'est-à-dire des animaux qui, théoriquement, sont justement là pour attaquer, pour tuer. Alors que des relations entre des singes et des antilopes pourraient passer pour quelque chose de beaucoup plus normal. Bref, ces mutualismes révèlent beaucoup de choses sur la manière dont fonctionnent les processus évolutifs. En effet, on s'aperçoit d'abord que la tolérance entre les espèces peut être largement augmentée à travers un mécanisme qui est souvent passé sous silence, mais qui montre une efficacité évolutive remarquable. Il s'agit de la familiarité. La familiarité consiste en ce que deux individus vont accroître leur tolérance en pratiquant des activités complémentaires ou bénéfiques. Au sein d'une même espèce, il peut s'agir d'une baisse de vigilance ou encore d'une imitation. Bon, par exemple, quand les oiseaux sont en groupe, ils vont baisser individuellement leur niveau de vigilance quand ils sont en compagnie, puisque chacun peut prendre à son tour de rôle le temps de surveiller les alentours. Par conséquent, ils vont moins surveiller au total, parce qu'ils vont être familiers avec l'environnement et évidemment avec leurs partenaires. S'ils étaient tout seuls, ils seraient obligés d'activer davantage de surveillance pour être tranquilles dans la nature. La familiarisation avec l'environnement constitue donc aussi un facteur très important d'organisation de la vie sociale. Si les individus sont familiers avec l'environnement ou s'ils sont familiers entre eux, ils peuvent accepter la proximité d'autres espèces parce qu'ils bénéficient d'une entraide commune. Alors cela va commencer par la simple baisse de vigilance. L'autre, d'un seul coup, n'est plus considéré comme un danger. On le reconnaît comme étant un individu qui cherche dans son coin. Et puis ça peut aller jusqu'à une certaine entraide sociale, comme dans les sociétés humaines. On sait par exemple que les chimpanzés peuvent même aider des chimpanzés handicapés au sein du groupe.
Ouais.
Mais la familiarité va beaucoup plus loin, car si on est rendu familier au comportement d'une autre espèce inconnue, eh bien on peut petit à petit comprendre comment elle fonctionne et donc s'associer avec. Et on va retrouver une sorte de complémentarité spatio-temporelle, les animaux vont se retrouver au même endroit, dans le même espace, parce qu'ils se connaissent les uns les autres, et ils vont s'y retrouver en même temps, pendant la même période, parce que durant cette période temporelle-là, ils savent qu'ils peuvent avoir une activité commune. Alors c'est tout à fait le cas, par exemple, de cette familiarité. Hein, rendu familier par le comportement d'une autre espèce, eh bien, des espèces vont complètement s'associer. Ainsi, les chiens domestiques sont élevés chez nous, chez les humains, pour protéger nos troupeaux. Et cette familiarité est très efficace si on prend le chien dans son jeune âge, puisque c'est au cours de cette période que l'apprentissage social sera essentiel et qui permettra effectivement de déjouer tous les pièges de la peur.
Ça me rappelle l'image dans le reportage où on voit la femelle de babouin tirer, vraiment prendre le petit chiot et puis le ramener à chaque fois après l'avoir mis dans l'endroit où elle voulait qu'il soit et en le remettant sans arrêt en place. Et il est tout jeune, effectivement, il ne bouge pas assis, là, attendant.
Elle l'élève de manière relativement autoritaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais cette chose qui peut nous paraître à nous un peu brutale est le mode de fonctionnement des babouins et des chiens.
Oui. Donc Thierry, la familiarité est un mécanisme évolutif bénéfique qui permet de partager des ressources.
Oui, c'est ainsi qu'il y en a que vont se former ce qu'on appelle des mutualismes. Mais ce qui est surtout remarquable, c'est que ces mutualismes vont fabriquer des associations comportementales et biologiques. Le chien défendant les troupeaux, par exemple. Mais elles fabriquent aussi des modifications génétiques. En fait, la théorie néo-darwinienne a toujours supposé que la parenté génétique constituait le facteur clé de la vie sociale. On a même un chercheur bien connu, David Hamilton, qui avait proposé que la parenté soit l'explication des relations sociales intenses qui existent dans les sociétés comme par exemple chez les fourmis ou les abeilles. Alors, l'hypothèse fondamentale de cette théorie de la parentèle, on la rappelle, c'est qu'on a plus d'intérêt à défendre des apparentés car ils partagent des gènes en commun et que par conséquent, en défendant des individus apparentés, on défendrait quelque part ses propres gènes. Ainsi même, si on ne se reproduit pas, en défendant des apparentés génétiquement à nous, on défendrait des descendants génétiquement apparentés à nous. Du coup, beaucoup de chercheurs ont voulu bénéficier ont voulu dire que ces groupes sociaux bénéficiaient, répondaient à cette loi de la parentèle, en défendant d'abord des individus apparentés. Or, les associations mixtes nous révèlent quelque chose de totalement différent. Les chiens et les babouins n'ont évidemment aucun gène en commun, pas plus que les langurs et les cerfs axis. Pourtant, ils sont organisés dans des groupes sociaux extraordinairement liés, très étroitement affinitaires, et les singes et les chiens vont développer d'incroyables mutualismes. C'est bien à partir de la familiarité de leur vie commune que ces associations se développent, et non pas à partir d'une parenté. Bien plus que la parentèle, la familiarité va donc constituer une force considérable qui va favoriser, bien entendu, la tolérance entre les individus, mais aussi l'apparition d'activités complémentaires. Il faut donc là qu'il y ait d'autres gènes qui puissent s'exprimer. Cela va donc avoir des conséquences monumentales sur la génétique des espèces. Et évidemment, qui dit conséquences sur la génétique des espèces, dit conséquences évolutives absolument incroyables.
I got a feeling called the blue. Oh Lord, since my baby said goodbye, Lord, I don't know what to do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got the kind of loving, Lord, I love to hear her when she calls me sweet dad. Daddy's such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Thought I'm nobody's sugar daddy now. And I'm lonesome, I got the lovesick blues. Well, I'm in love with a beautiful gal. That's what's the matter with me. Well, I'm in love with a beautiful gal. But she don't care about me. Lord, I tried and I tried to keep her satisfied. But she just wouldn't stay. So now that she is leaving, this is all I can say. I got a feeling called the blues. Oh Lord, since my baby said goodbye, Lord, I don't know how to do. All I do is sit and sigh. Oh Lord, that last long day she said goodbye. Well Lord, I thought I would cry. She'll do me, she'll do you. She's got that kind of loving. Lord, I love to hear her when she calls me sweet. Daddy's such a beautiful dream. I hate to think it's all over. I've lost my heart, it seems. I've grown so used to you somehow. Lord, I'm nobody's sugar daddy now, and I'm lonesome. I got the lovesick blues.
Hey, your folks, that lovesick blues. This is Hank Williams speaking for all the boys and myself, saying if the good Lord's willing and the creeks don't rise, we'll see you again before long. And until then, Jerry, let's go see Sally Goodman.
Vous écoutiez Hank Williams, Lovesick Blues. Nous sommes sur 89.4 Radio Libertaire, la radio sans maître, sans dieu et sans publicité, dans une émission faite pour tous les cortiqués du bulbe, science en liberté. Donc Thierry, nous étions à la recherche des facteurs qui pouvaient influencer les relations interspécifiques quand un animal s'associe avec un autre, un animal d'une autre espèce.
Oui, Siona, et c'est ici qu'intervient le fameux terme de société dite mixte. Dans la réalité, on va voir que ce sont plutôt des groupes de mutualisme qui se mettent en place. Alors, il va exister des éléments décisifs qui vont faire passer un animal d'un statut écologique particulier à un nouveau statut écologique, celui d'être associé. Mais là, on va toucher du doigt l'un des mécanismes probablement les plus importants de la plupart des processus évolutifs. Il est beaucoup plus important en tout cas, et beaucoup plus clair, que la sélection naturelle. En effet, reprenons. La sélection naturelle voit une amélioration du fonctionnement des individus à travers le filtre évolutif de l'environnement. Pour Darwin et les néo-darwiniens, le filtre environnemental est passif et c'est l'adaptation qui consiste en ce que certains individus vont survivre mieux que d'autres dans un habitat donné. Certains individus vont disposer d'un bec qui va leur permettre de bien manger telle graine et ils survivront mieux que ceux qui ne possèdent pas ce bec, par exemple. Ces animaux auraient donc une meilleure fitness, une meilleure capacité, une meilleure capacité adaptative, c'est le terme qu'on leur donne d'habitude, car ils adopteraient un comportement ou un organe particulier. Bon, l'exemple caractéristique qui est donné en classe, c'est toujours chez les enfants des écoles, puisque le darwinisme est quand même appris quasiment par cœur comme une loi absolue de l'évolution. C'est les papillons blancs qui sont invisibles sur le tronc blanc d'un bouleau, par exemple, et qui vont survivre puisqu'ils sont invisibles. Mais si le tronc change de couleur en devenant noir, comme ça a été le cas lors de l'exploitation du charbon en Grande-Bretagne, seuls les individus les plus dissimulés ou qui vont adopter un comportement, une couleur noire, vont survivre. L'adaptation est donc le résultat d'une sorte de sélection aveugle dans lequel la prédation semble même avoir le rôle principal.
Cette sélection darwinienne, mais comment se passe l'association mixte des espèces ?
Alors, cette sélection darwinienne, évidemment, est quelque chose qui existe. Mais il faut bien comprendre, s'il y en a, que l'explication darwinienne repose sur l'hypothèse d'une concurrence des variations. Au sein du groupe, seuls ceux qui sont les plus efficaces, grâce à cette variation, vont échapper à la mort. Or, nous l'avons vu, de nombreuses associations ou interactions animales ne sont ni franchement efficaces, ni franchement mortelles. Les babouins peuvent très bien vivre sans les chiens peuvent très bien vivre sans les babouins. Et pourtant, toute l'évolution dépend et exige ces associations. En fait, depuis les débuts de la formation de la vie sur Terre, on assiste à des associations.
Nous avions d'ailleurs fait une émission spéciale sur l'écologie évolutive que les auditeurs peuvent réécouter sur le site de Trou Noir, Science en Liberté.
En effet, Siona, c'est toujours bon de réécouter ces émissions. Bon, reprenons. La formation des toutes premières cellules vivantes. Eh bien, c'est une association entre des organites, des molécules, des membranes. La formation d'organismes vivants est également une association. On l'a vu, les mitochondries sont rentrées à l'intérieur des cellules, c'était des bactéries au départ, et on a là une symbiose. De la même manière, on a des associations entre les cellules pour former des organes. Ensuite, on l'a vu, comme on en a parlé aussi dans plusieurs émissions, que l'association d'individus qui vont former des organes différents va petit à petit fabriquer des êtres vivants, des individus. C'est ce que j'ai décrit selon la théorie des poupées russes. Théorie des poupées russes qui indique que chaque association va permettre d'autoriser la suivante et forme en quelque sorte un premier niveau sur lequel peut s'exercer tout un ensemble d'autres éléments, dont pourquoi pas la sélection naturelle également. Cette sélection à plusieurs niveaux est évidemment l'élément le plus important. À chaque fois, l'évolution va se passer parce que la première phase, en quelque sorte, s'est passée. Ce sont des immenses changements évolutifs qui sont pourtant liés à de tout petits phénomènes, parfois totalement accessoires. Le fait de faire rentrer une mitochondrie ou pas dans une cellule, ça n'a rien de sélectif. Ça s'est passé, des cellules auraient très bien pu vivre sans, les bactéries n'ont pas de mitochondrie. Or, ça a développé tout un nouveau genre, toute une nouvelle chose. C'est très important, parce que l'évolution, c'est d'abord l'histoire de l'apparition des différences. Ce qui compte dans l'évolution, c'est bien la divergence des espèces, l'origine des espèces. Et c'est ça qui va nous importer. Le reste, que les espèces maintiennent ceci parce qu'elles sont efficaces ou pas, bon, on le suppose bien, évidemment, une espèce qui n'est pas efficace, qui aurait la bouche de travers et va pas vivre. Mais ça, c'est un épiphénomène, enfin, en tout cas, d'après moi. Aussi, évidemment, ce qui est important à comprendre, c'est que ce sont ces petits phénomènes accessoires qui vont fonctionner suffisamment bien pour résister, mais qui ne montreront pas forcément un avantage aussi considérable que ça. C'est donc le résultat de toute une histoire qu'on appelle l'histoire évolutive. Eh bien, les associations mixtes sont le résultat de l'histoire de vie de chaque espèce, car dans l'évolution, chacun dépend des autres. L'évolution est une écologie où l'histoire de chacune des espèces intervient, et elle intervient de telle manière qu'elle peut modifier l'histoire des autres espèces.
Alors, je comprends, mais la notion d'histoire implique des habitudes, implique de la familiarisation. Donc, finalement, c'est toute cette histoire-là.
Non, la notion d'histoire n'implique pas ça. L'histoire, c'est un ensemble d'événements qui se déroulent, qui se sont passés avec des occasions qui ont été prises, des choix qui ont été faits par des espèces animales, par des individus, même si ces choix sont nullement conscients. C'est juste des orientations, comme une paramécie peut décider d'aller à gauche et une autre à droite. Ça va former son histoire de vie. Celles qui vont aller à gauche, plus souvent, auront des particularités évolutives.
Mais pour cela, il faut bien qu'il y ait eu des changements au cours de ces histoires de vie. Car là, les chiens, redevenus sauvages, devraient être les prédateurs des singes et non pas leurs amis.
C'est tout à fait ça, Siona. Et on va voir que de minuscules petites modifications génétiques peuvent entraîner d'incroyables effets évolutifs, sans pour cela que l'un ou l'autre constitue un avantage supérieur. Regardons nos chiens. Retournés à l'état sauvage en Arabie Saoudite, les chiens dépendent des ressources naturelles disponibles. Ce sont des canidés, donc comme la plupart des canidés redevenus sauvages ou sauvages, ils vont former des petites bandes familiales. Ces petites bandes familiales vont chasser à court des antilopes, des lapins ou des singes. En bande, les chats sauvages sont aussi des prédateurs de babouins. Mais comme tous les animaux, leur régime alimentaire va varier selon les saisons ou selon les occasions. On dit que ces animaux-là font un pré-switching, un changement de proie. Ils peuvent consommer par exemple des souris ou des petites proies, comme des grillons, des vers de terre, ou alors ils peuvent même devenir charognards, ou encore chasser à court selon les périodes de l'année. La bande de chiens n'est donc utile que lorsqu'il y a des chasses en groupe, et que les chiens peuvent profiter les uns des autres pour attaquer des proies qui se défendent bien. Il faut donc qu'il y ait eu une modification comportementale pour que ces chiens passent de chasseurs en groupe, et qu'ils soient capables d'identifier un babouin comme une proie, à un animal qui va défendre les singes. On voit bien là qu'il y a eu une variation comportementale. C'est précisément cette variation comportementale qu'on appelle un déplacement de caractère. Le déplacement de caractère, ça peut être un organe, mais là, c'est un comportement qui fait que certains chiens vont préférer vivre en amis des singes plutôt qu'en prédateurs.
Mais alors, qu'est-ce qui va déterminer cette différence ? Tu dis qu'ils préfèrent vivre avec les singes, mais pourquoi ? Puisque ce sont des prédateurs.
Eh bien, c'est là qu'on voit, Siona, que les préférences individuelles vont jouer un rôle primordial en biologie évolutive. Préférences, je le répète, ce ne sont pas forcément des éléments de choix conscient. Hein, quand la paramécie décide de tourner à gauche ou à droite, il y a tout un ensemble d'événements qui se passent dans le courant. Il n'y a pas de système nerveux, il n'y a rien, c'est juste un mouvement. Eh bien, ces préférences-là peuvent aller jusqu'à la préférence sexuelle. On sait, par exemple, que la préférence sexuelle pour tel ou tel individu qui va présenter tel ou tel comportement, sont essentiels à l'évolution de chaque espèce. On a même d'ailleurs fait de la sélection naturelle à partir de ces préférences sexuelles. Donc on voit à quel point la préférence est une des bases, le choix sexuel est une des bases de l'évolution. Eh bien, c'est ce qui se passe entre les chiens prédateurs et les chiens qui vont devenir des chiens de garde, des singes. C'est que ces deux comportements n'apportent pas des avantages supérieurs l'un à l'autre. Il n'y a donc pas de sélection naturelle à cause d'un bénéfice. Au contraire, chaque comportement a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ils ne vont s'ajuster qu'au cours de l'évolution de chacun des groupes. Il va y avoir des chiens qui vont devenir des chiens prédateurs. Pour cela, il faut apprendre que le singe est une proie, comment elle court, comment on peut la chasser. Apprendre également à vivre en meute à la manière des canidés pour pouvoir chasser ces singes qui se défendent bien. Au contraire, pour devenir un chien de garde des singes, il faut s'enrouler dans la troupe des singes, vivre en s'associant avec eux, accepter les déchets en nourriture. On a vu que ces processus ne peuvent donc pas dépendre de la théorie de la parentèle. Il n'y a pas de parenté entre les singes et les chiens. Et ici, les singes, évidemment, ne sont pas parents des chiens non plus. Des chiens non plus. Les chiens, des singes encore moins. Comme dans toutes les associations animales, le facteur clé va donc être ici la familiarisation. Certains chiens vont davantage se familiariser avec la vie des singes, au point que les femelles vont mettre bas au sein du groupe des singes. Et ce glissement est possible car leur taux d'hormones de stress est faible, et suffisamment faible pour permettre aux chiens de ne plus avoir peur des singes, de pouvoir vivre au milieu des singes. De la même manière, on a la même chose entre les souris des champs, qui vont avoir un stress important et qui les empêchera de s'approcher de l'homme, et les souris des villes, celles qui vivent autour des éléments agricoles, puisque là, du coup, ils vont tolérer le stress que leur imposent les humains et voir le stress que leur imposent les chats. Cette différence de stress a été mesurée, hein, c'est quantitatif, c'est mesuré, et l'expression génétique de ce stress est évidemment aussi mesurée. Mais on a bien, on le voit, un déplacement de caractère avec deux caractères qui ne sont plus du tout les mêmes.
C'est donc finalement la souris des champs a plus peur que la souris des maisons. Mais est-ce une force suffisante ?
Oui, Siana, parce que c'est un gradient d'aptitude à la familiarisation qui va faire diverger les chiens prédateurs et les chiens de garde, à tel point que le chien de garde va choisir de défendre les singes contre d'autres chiens, contre les chiens prédateurs. On voit combien la force des interactions va structurer les deux communautés, et cela à partir d'une toute petite variation génétique donnant beaucoup ou peu d'hormones de stress, par exemple. Alors évidemment, tous ces facteurs sont des facteurs essentiels pour que la différenciation se fasse entre les deux chiens. Est-ce que ces deux chiens-là finiront par devenir deux espèces distinctes ? Pourquoi pas, hein ? Le chien prédateur peut retrouver son style de prédation, le chien compagnon peut rester le compagnon des singes pendant très très longtemps. Mais cette petite variation va encore être influencée par l'environnement, selon une procédure d'ailleurs beaucoup plus lamarckienne que darwinienne. Car un chien familier qui se ferait brutaliser, ou qui se ferait taper dessus par les singes, ou qui se ferait chasser par les singes, verrait son stress augmenter. S'il est élevé parmi les singes et que dès qu'il voit un singe, il se fait taper dessus, son stress augmente, c'est évident. Et donc, comme son stress va augmenter, il va repartir vers les bandes de chiens sauvages. Mmh. Il va donc rediminuer son stress par rapport au chien, augmenter son stress par rapport au singe. Il peut repasser le cap de redevenir un chien sauvage. Inversement, le chien qui va avoir son niveau de stress totalement diminué, eh bien, il va évidemment petit à petit devenir beaucoup plus familier et rester avec les singes s'il s'y sent protégé. On voit ici que chaque espèce va dépendre des autres selon des processus aussi avec des facteurs environnementaux qui ont un rôle dans les prises de décision de chacun, la prise de décision, le choix de rester ou de partir. Et ce rôle, évidemment essentiel, va aussi déterminer la suite des comportements, voire des organes des animaux. Évidemment, chaque espèce va dépendre des autres pour que les comportements s'ajustent. Alors, ça ne signifie pas que les chiens sont familiers, ils vont le devenir. En effet, ce sont les singes qui d'abord s'emparent des chiots, il faut se souvenir de ça. Mmh. Les femelles de chiens familières ont mis bas au sein du groupe de singes, et les femelles, on l'a vu, font un rapt des chiots, les singes font un rapt de ces chiots, et les babouins vont les élever isolément, comme nous on fait avec nos chiens et nos chats, pour modifier leur comportement, et sceller définitivement le déplacement de caractère pour que le canidé prédateur à la base devienne un canidé quasi domestique.
Finalement, c'est un phénomène d'empreinte quelque part.
C'est pas un phénomène d'empreinte, ça joue sur la génétique, sur le déplacement génétique. On est beaucoup au-delà de l'empreinte.
Et de génération en génération, finalement, l'aptitude à devenir chien de garde se développe encore.
Voilà, c'est pour ça qu'on a une sorte de sélection artificielle, celle qui avait frappé Darwin, au sein des chiens. Puisqu'au départ, évidemment, cette sélection artificielle se fait, les babouins vont préférer les chiens de garde les plus familiers. Donc, on voit qu'au départ, ce n'est pas cette sélection naturelle qui préside à l'association mixte ou qui préside entre les babouins et les chiens, mais au contraire, la particularité de leur interaction. Ces chiens élevés par des babouins vont jouer le rôle de chiens domestiques parce qu'ils disposent à la base du déplacement de caractère qui modifie leur comportement. Et c'est ça qui est essentiel, puisqu'en évolution, ce qui compte, c'est l'apparition de la différence. Après que cette différence soit sélectionnée par un facteur, ça paraît évident. Alors ça va être facilité probablement par le fait que ces chiens descendent déjà de chiens domestiques et donc ces chiens ancestralement domestiqués par les humains vont avoir plus de facilité à adopter les singes. Mais cela ne suffit pas pour tout expliquer puisqu'il y a d'autres descendants de chiens domestiques qui eux peuvent devenir des chiens prédateurs qui vivent en bande. Donc on voit que cette explication n'est pas suffisante. La différence clé se situe donc bien dans la divergence comportementale, c'est-à-dire dans le déplacement du caractère, qui n'est ni meilleur ni moins bon, mais simplement différent. Deux groupes de chiens vont diverger à travers un trait d'histoire de vie, leur degré de familiarité, sans qu'il s'agisse d'un degré, d'un trait qui soit bénéfique ou d'un trait qui soit désavantageux au sens darwinien. Il est juste dépendant de la situation. Il y a donc bien ici des traits d'histoire de vie qui vont s'imposer au cours de l'histoire évolutive de chacune des espèces. On parle de traits d'histoire de vie. Hein. Il n'y a donc pas ici de sélection, mais au contraire une force d'association entre les singes et les chiens. C'est ce que j'ai appelé la force structurante des interactions. Et cette force est la même que celle qui peut associer un parasite à son hôte. Alors là, ça ne sera pas bénéfique du tout. C'est pourtant la même. Un animal va parasiter la nourriture d'une autre espèce, qu'on appelle le commensalisme. C'est probablement grâce à ce qu'on appelle, à cette fameuse force structurante des interactions, les interactions qui vont être une force qui structure en quelque sorte les écosystèmes, que des choses comme la symbiose, que des processus comme la symbiose peuvent se mettre en place quand la tolérance de chaque espèce s'est tellement modifiée, qu'elle s'est tellement accentuée, qu'elle va favoriser l'association entre deux espèces totalement différentes.
Et c'est comme cela que le poisson clown s'est associé à l'anémone de mer ?
Eh oui, c'est comme cela. Ou encore l'intégration des mitochondries dans nos cellules eucaryotes, par exemple. Ou encore l'assemblage de ces cellules eucaryotes pour former des organes. Ou encore l'insertion de ces organes dans des corps entiers. L'insertion des algues les auxantelles, par exemple, dans le tissu des coraux, qui leur permettent de fabriquer, là encore, une symbiose parfaite pour extraire les aliments à partir de phénomènes comme la photosynthèse, et l'intégration des espèces dans les écosystèmes, puisque tous les écosystèmes sont finalement des associations dans lesquelles le degré de tolérance est plus ou moins grand. Entre la belette et le campagnol, la tolérance est relativement faible, chacun échappe à l'autre, mais entre les autres animaux, entre tel campagnol et tel autre, on va avoir des mécanismes de tolérance qui peuvent faire que les espèces vont vivre ensemble, parfois en se partageant l'environnement. Toutes les symbioses constituent un équilibre des tolérances. Et il en est de même pour toutes les associations animales qui vont générer des interactions, parce que jamais une espèce n'a été toute seule dans l'évolution. C'est le degré de tolérance aux autres espèces qui structure les écosystèmes, sans qu'il ne soit question ni d'avantage ou de désavantage, mais au contraire de différence. Par exemple, la grande différence entre les eucaryotes et les bactéries s'est faite il y a très 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 longtemps. C'était probablement l'une des différences essentielles dans la formation des cellules vivantes. La divergence entre les espèces est donc la clé de l'évolution. C'est bien une théorie de la différence qui manque le plus à la biologie évolutive.
Et que tu vas développer, et que tu développes.
There's a great and a bloody fight round this whole world tonight. In the battle, the bombs and shrapnel rain. Hitler told the world around he would tear our union down. But our union's gonna break them slavery chains. Our union's gonna break them slavery chains. I walked up on a mountain in the middle of the sky. Could see every farm and every town. I could see all the people in this whole wide world. That's a union that'll tear the fascists down, down, down. That's a union that'll tear the fascists down. When I think of the men and the ships going down while the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down. But when I think of the ships and the men going down and the Russians fight on across the Don, there's London in ruins and Paris in chains. Good people, what are we waiting on? Good people, what are we waiting on? So I thank the Soviets and the mighty Chinese vets, the allies, the whole wide world around. To the battling British, thanks, you can have 10 million Yanks if it takes them to tear the fascists down, down, down. If it takes them to tear the fascists down.
Tear the fascists down, interprété par Woody Guthrie. Thierry, nous venons de voir que l'association des babouins, des chats et des chiens nous donnait une parfaite illustration de la manière dont l'évolution se passait. C'est-à-dire que des caractères particuliers peuvent se modifier dans une toute petite mesure et générer une divergence à l'intérieur d'une même espèce. Ce fameux déplacement de caractère, sans être ni bénéfique ni désavantageux, donne finalement la clé de l'évolution. L'évolution consiste donc dans l'association des espèces, les unes par rapport aux autres, et c'est ce que les babouins font avec les chiens. En fait, les associations entre espèces paraissent liées à une sorte de volonté de vivre ensemble, finalement.
Oui, en fait, pour être plus précis, Siona, comme chaque espèce n'est pas isolée dans son environnement et ne vit jamais seule, elle fait partie du milieu des autres. Faisant partie du milieu des autres, elle interagit obligatoirement avec les autres. C'est d'ailleurs un peu le sens de ce que notre ami Élisée Reclus voulait quand il parlait de mésologie par rapport à l'environnement qui était utilisé à l'époque comme mot par les darwiniens. Ensuite, selon le type de cette interaction, chaque espèce va montrer un itinéraire évolutif particulier qui peut se scinder ou pas. Hein, chacun d'entre nous a un itinéraire évolutif, notre espèce a rencontré cela, la température, les glaciations, tout un ensemble d'événements. L'évolution résulte ainsi de ce qu'on peut nommer le choix de chacun, même si ces choix sont loin d'être conscients et réfléchis. Mais on introduit tout de même ici de la liberté, en quelque sorte, en évolution. On a vu que l'évolution génétique résultaient elles-mêmes de petites modifications qui peuvent entraîner un curseur comportemental différent dans un gradient. Par exemple, le gradient de stress, tolérance au stress plus ou moins grand. Ici, il s'agissait donc d'un gradient d'émotion.
Et cela concerne beaucoup d'espèces sauvages.
Oui, une étude de Heyman, par exemple, en 2015, a répertorié 64 espèces de primates associées avec plus de 95 espèces de non-primates. Avec des oiseaux, comme par exemple l'harpage bidenté, c'est un petit accipitridé de la forêt tropicale américaine. Et il y a plusieurs espèces de singes tamarins, par exemple, ou des singes écureuils. Avec des ongulés, alors la plus fréquente, on en a parlé, c'est celle, l'association entre les antelles, les langures, et le cerf cheetah, l'axis. Mais aussi entre des lézards et les alouettes. Les alouettes, c'est les singes hurleurs d'Amérique, par exemple, qui vont manger des fruits les uns avec les autres. Et même entre des poissons caracidés, donc c'est les poissons typiques d'Amérique du Sud, et les singes capucins.
C'est fantastique, mais il faut que ce soit bénéfique pour que cela fonctionne.
Non, l'interaction n'est ni bonne ni mauvaise. De même que l'expression génétique n'est ni bonne ni mauvaise en soi, sauf si c'est une erreur qui va empêcher un fonctionnement normal d'un organe. Mais chaque petite modification se place dans un curseur de tolérance aux autres et va déterminer la place de chacun. Les chiens qui sont devenus prédateurs de singes peuvent être bénéfiques à la population de singes. Avec un effet vétérinaire, ils vont tuer les animaux les plus malades, les plus jeunes, ils vont limiter la population et la propagation des maladies. Mais ils ne sont pas bénéfiques pour tous les singes, et surtout pas pour ceux qui sont forcément qui meurent. La sélection des singes n'a pas forcément d'intérêt pour favoriser la sélection des singes. La sélection par les chiens, je veux dire, n'a pas forcément d'intérêt pour favoriser la sélection des singes. De la même manière, les chiens de garde des singes ne sont pas forcément des aides ou ne vont pas forcément obtenir des avantages en protégeant les singes. Un babouin adulte sait très bien se défendre et les chiens peuvent ne recevoir que des miettes. Mais l'augmentation de leur degré de tolérance est suffisante malgré tout pour qu'ils s'associent. On voit ainsi que l'association est devenue la clé de la compréhension de l'histoire évolutive.
Est-ce qu'il y a des associations uniquement chez les animaux sociaux ?
Alors chez les animaux sociaux, il y a déjà une augmentation de la tolérance au sein des groupes. Et cette augmentation du curseur de la tolérance va faciliter évidemment les comportements d'adoption. Les animaux sont habitués à vivre avec leurs congénères, ils y sont familiers, ils peuvent plus facilement se familiariser entre eux. Et donc aussi se familiariser avec d'autres espèces qui seraient calmes autour d'eux. Par exemple, les coatis, c'est des petits carnivores. Ils peuvent très bien s'associer à des bandes de singes, sans d'ailleurs qu'on comprenne le bénéfice. Et puis on sait aussi qu'il y a des mécanismes d'adoption qui sont très fréquents dans la nature et qui ont la plupart du temps maintenant commencé à être étudiés. L'adoption pose un véritable problème à la théorie néo-darwinienne, puisqu'elle ne peut pas être expliquée facilement par la sélection naturelle. Or, beaucoup de singes, depuis les babouins jusqu'aux gorilles, savent adopter des animaux. Il y a beaucoup de mutualisme entre singes, animaux, antilopes, qui ont été étudiés principalement en Amérique du Sud et en Asie. Toutefois, il existe de nombreuses associations mixtes chez des animaux qui ne vivent pas en groupe, car même avec une vie sociale indirecte, l'animal n'est pas du tout dans une vie solitaire, il a une vie sociale. Il a des relations olfactives, par le biais par exemple d'épreintes comme chez la loutre. Il sait parfaitement, ou des relations sonores, hein, par le biais des chants entre les oiseaux par exemple. Il sait donc parfaitement où se situent ses propres congénères. Hein, il sait qu'ici il est sur le territoire d'Arthur et que là il va passer sur le territoire de Juliette. Donc il y a bien une relation sociale. Mais cependant ces animaux peuvent vivre seuls. Et dans le cadre de l'association mixte, on va avoir des mutualismes particuliers qui vont se poser entre des individus qui vivent quasiment tout seuls et d'autres espèces qui vont vivre également plus ou moins seuls. C'est par exemple le cas entre le ratel et l'oiseau indicateur.
L'oiseau indicateur vit en symbiose avec le ratel ?
Alors, ce n'est pas tout à fait une symbiose exacte. Il s'agit d'un mutualisme dans lequel l'oiseau indicateur va attirer l'attention du ratel. Alors, ça se passe en Afrique, plutôt en Afrique du Sud, hein, dans toute la région méridionale de l'Afrique. Le ratel est un petit mustélidé qui ressemble à un gros blaireau avec des rayures blanches, enfin avec un dos tout blanc. Et ce ratel est spécialisé dans la consommation des gros insectes, des scorpions et de toutes les petites proies. Eh bien, l'oiseau indicateur va se mettre au-dessus sur une branche et il va piailler pour mener notre ratel jusqu'à un nid d'abeilles sauvages. Alors on va voir l'oiseau indicateur qui vient piailler, parce que l'oiseau indicateur se nourrit lui de larves, d'insectes et de tout ce qu'il va trouver dans les rayons de cire. Il a repéré, cet oiseau indicateur, un nid d'abeilles sauvages. Il va donc chercher un ratel, se mettre au-dessus du ratel et lui dire « pia, 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 là-bas il y a des abeilles ». Et le ratel va suivre le déplacement d'oiseau qui va attendre le ratel, hein, de branche en branche. Il va sauter juste assez pour que le ratel puisse le suivre. Quand le ratel va atteindre le nid, ben là, il va bien comprendre que c'est un nid d'abeille. Il va déchirer le nid parce qu'il a des griffes très, très, très solides. Il va être capable de casser les rayons, etc. Et il va se gaver du miel et puis des larves qu'il peut avoir. Mais comme il est assez indifférent aux piqûres d'insectes, il est capable de faire ça sans aucun problème. L'oiseau indicateur, lui, qui n'est pas indifférent aux piqûres des abeilles, va attendre que la plupart des abeilles finissent par partir. Il viendra ensuite piller les larves en volant lui-même les rayons de cire.
Ah, c'est étonnant. Oui.
Voilà, et ces rayons de cire, ça va aussi lui permettre de séduire la femelle d'indicateur, parce qu'il va se transporter vers la femelle avec ce rayon en disant « Regarde comme moi je sais faire pour avoir des abeilles. » Et du coup, la femelle va dire « Oh, quel beau cadeau, je viens avec toi et on passe aux petites choses en chambre. » Voilà. Et donc, cette offrande nuptiale va permettre à la reproduction de l'oiseau indicateur, et en même temps, ça permet au ratel d'être nourri.
C'est plutôt des mâles, alors, qui font cette chose-là.
C'est plutôt le mâle d'indicateur. Moi, je suppose que l'étude a été faite un peu plus finement pour voir un peu ce qu'il en était, car je ne vois pas pourquoi les femelles ne le pratiqueraient pas non plus, du moment que c'est un peu pratique pour elles aussi. En tout cas, ces mutualismes existent chez de nombreuses espèces qui vivent en solitaire, comme par exemple encore chez les moules et chez les bouvières. La bouvière, c'est un poisson qui vit dans nos rivières, et elle pond à l'intérieur des branchies d'une moule, où là, les alevins vont se développer grâce aux particules alimentaires que la moule va bloquer dans ses branchies. Elle filtre l'eau et elle bloque plein de particules alimentaires, et les alevins peuvent se nourrir de cela. Ensuite, les alevins, ils vont réussir à sortir de ses branchies, et la moule va profiter de la bouvière ensuite, en accrochant les larves de la moule au corps des bouvières, qui va donc transporter la larve de la moule au long de la rivière, et la moule va pouvoir lâcher à un moment donné et se déposer à un autre endroit. On voit donc là qu'il y a des liens, des mutualismes assez importants. C'est toujours difficile de savoir quel est le bénéfice que la moule va en retirer. Le bénéfice de la bouvière est par contre important, puisque les alevins sont parfaitement protégés et nourris à l'intérieur de la moule. On en reparlera d'ailleurs, parce que la bouvière est obligée de développer un organe tout à fait spécialisé. Enfin, on parlera de tous ces organes, parce que c'est quand même très intéressant. De même, on sait par exemple qu'il y a un petit oiseau qui s'appelle le dicknème. Le dicknème africain, avec des grands yeux, c'est un petit oiseau terrestre qui va s'installer près des nids de crocodiles. Alors évidemment, le crocodile pourra en faire un repas. Mais pourtant, les crocodiles ne mangent pas les œufs dicknèmes qui sont installés à côté. Ils laissent le dicknème couver son nid. C'est des petits œufs pour un crocodile. C'est pas une source de nourriture très importante non plus. Mais en revanche, c'est très intéressant parce que quand le crocodile dort ou est complètement assommé de chaleur, eh bien, il arrive assez fréquemment que des varans soit intéressé par le nid du crocodile. Là encore, le nid de le dicknème va pas trop les intéresser, mais enfin, s'il passe dessus, il va le manger. Le dicknème voit arriver le varan, il va piailler, du coup, le crocodile se réveille, et du coup, le varan ne peut pas manger le nid. Et ainsi, de la même manière, la présence du crocodile à proximité du nid de le dicknème va protéger le nid de le dicknème contre les éventuels prédateurs.
Ainsi donc, les relations entre les espèces sont monnaie courante sous l'effet de ces petits changements qui accompagnent et motivent les différences dans les espèces.
Oui, Siona, car bien sûr, il n'y a pas que des relations de prédation. Et ce concept de compétition qui avait été historiquement le premier découvert par le darwinisme, c'est le principe même de l'exclusion compétitive qu'on trouve dans l'origine des espèces de Darwin, il faut l'intégrer dans une vision beaucoup plus large. Seules des interactions. La compétition entre les espèces n'est plus considérée comme une force agissante en biologie, elle est de plus en plus associée à des facteurs comme la coopération, par exemple. On s'aperçoit qu'il s'agit là encore d'un gradient d'intervention et que chaque interaction a son côté bon ou son côté mauvais, mais dans un gradient, c'est ni bon ni mauvais, ni tout bon ni tout mauvais. Ces interactions interspécifiques ne constituent donc pas une lutte de tous contre tous, c'est pas la lutte pour la vie, la struggle for life, elles sont au contraire beaucoup plus variées et beaucoup plus réciproques. Par exemple, on connaît le commensalisme, alors que normalement l'hôte ne va pas tirer des bénéfices de l'organisme qui vient lui prendre son couvert, qui vient manger chez lui, ou qui parfois vient simplement dormir chez lui. On a ainsi beaucoup de cas, même par exemple chez les végétaux, on a les épiphytes qui vont se poser sur d'autres végétaux, qui vont vivre dans les creux de d'autres végétaux.
Oui.
Alors il y a le mutualisme. Dans le mutualisme, les deux partenaires vont tirer un bénéfice apparent de l'association. Mais chaque espèce peut vivre une vie totalement indépendante. C'est le cas des poissons nettoyeurs, par exemple, qui vont venir nettoyer entre les dents des autres et qui bénéficient ainsi d'un peu de nourriture pendant que les autres bénéficient du fait d'avoir les dents plus ou moins propres. On a beaucoup d'insectes aussi qui peuvent transporter le pollen, etc. Il faut bien penser tout ça en termes de gradient, en termes de curseur sur un gradient dans lequel on peut le faire. Après, il y a évidemment la symbiose. Alors, dans la symbiose, on connaît la relation, comment elle s'est constituée. Il est probable que la symbiose dérive au départ d'un parasitisme qui, petit à petit, s'est apaisé, le parasite ne prenant plus que ce qu'il a besoin et l'hôte n'étant plus parasité, ne souffrant pas de ce parasitisme. Les lichens, par exemple, ce sont des associations symbiotiques. Bien que certains cycles de parasites peuvent devenir tellement bénéficiaires qu'ils vont fabriquer quelque chose. Par exemple, dans notre intestin ou sur notre peau ou dans la bouche ou dans le vagin, on a ce qu'on appelle des grandes colonies de bactéries qui vont former notre microbiome. Et ce microbiome était auparavant probablement parasite et qui, petit à petit, est devenu un élément essentiel nous permettant de digérer ceci ou cela. Les termites ne digèrent pas la cellulose. Et sans les bactéries qu'elles hébergent, elles seraient incapables de vivre. On voit bien qu'il y a là des mécanismes symbiotiques qui sont à la limite du parasitisme. Alors, ce ne sont pas des curiosités de la nature. Il y a des dizaines d'autres exemples qui existent comme cela. Et évidemment, ces dizaines d'exemples, comme les rapports de pollinisation, sont essentiels pour le reste de l'évolution. La plupart des coraux, par exemple, hébergent des zooxanthelles, on en a parlé. Ce qui provoque évidemment une biomasse considérable. Et tous ces événements sont importants. Les mycorhizes sont des champignons symbiotiques qui vont permettre le développement des arbres, par exemple. On peut même dire, dans une certaine mesure, que toute la genèse de la planète et des climats sont le résultat de ces êtres vivants sur leur environnement.
Et puis Thierry, il y a l'affaire du Coilou, si je ne m'abuse.
La fameuse affaire du Coilou, Siona. En effet, alors on a vu que le déplacement de caractère permettait de favoriser des alliances étranges. Sous l'effet de leur cohabitation, maintenant, dans l'Est des États-Unis et du Canada, le loup va tolérer le coyote. Mais il ne va pas faire que tolérer le coyote, il va même s'hybrider avec le coyote, ce qui va induire la formation d'une nouvelle espèce sous l'effet d'un déplacement de caractère. On voit ici que la base même de l'évolution, c'est cette différence qui va permettre l'apparition d'une divergence entre les loups et maintenant les coyloups. Car le loup change, il n'est plus ce prédateur du coyote, il devient son allié sexuel. De même que le coyote, qui est devenu familier avec le loup, est maintenant séduit par cette espèce et ne la fuit plus. Évidemment, cette aventure évolutive considérable du coyloup, qui forme un hybride entre les deux, va dépendre de ces deux modifications de caractère, là encore sur un degré de familiarisation. C'est donc là encore un petit gradient de différence qui fait que le coyote ne va plus être mangé par le loup, mais va le séduire au point de former une nouvelle espèce qu'on a appelée le coyloup, et qui présente évidemment des caractéristiques totalement différentes du loup. Il ne chasse plus comme les loups le faisaient avant, et du coyote. Il ne chasse plus comme le coyote le faisait avant. Il forme des bandes de coyloups qui vont chasser un peu comme des coyotes. On est dans une espèce dans un groupe tout à fait étonnant, avec l'apparition probable d'une nouvelle espèce. Le déplacement de caractère va donc être ici une clé, non pas seulement de la compétition entre les espèces, mais bien de tout simplement les événements d'association, de relations entre individus, la force structurante des interactions dont je parlais tout à l'heure. On est ici en présence de l'évolution en route. Alors c'est une incroyable force de la nature qui fait diverger les espèces sur le gradient d'un seul caractère. Ici, c'est encore une fois la familiarisation.
Yeah.
les Berruriers noirs nous faisaient part d'une vie de singe.
Les chiens et les babouins s'évertuent à de bien drôles alliances. Une question taraude qui se pose sans cesse. Qu'est-ce qui peut motiver la constitution de ces fameuses sociétés mixtes ou de ces mutualismes chez les animaux ? De fait, les associations sont très communes dans la nature. Langurs et cerfs axis, par exemple, bénéficient d'une stratégie commune d'exploitation des fruits et de la vigilance, ou encore chez les singes à tailles en Amérique du Sud. Mais en quittant ces interactions sociales, on découvre 1000 autres associations entre espèces, depuis le mutualisme, la symbiose, ou encore le commensalisme et voire le parasitisme. Des espèces solitaires, entre guillemets, comme le ratel et l'oiseau indicateur par exemple, s'associent pour la découverte du miel, et on retrouve de telles interactions chez les mammifères marins par exemple. Si on considère l'importance de la pollinisation ou encore de la prédation, on constate évidemment que l'évolution se forme de ces multiples interactions animales. Ici naît la différence, ici émerge la divergence des espèces dans une écologie évolutive, dans une évolution écologique. Il me semble qu'une interaction n'est ni bonne ni mauvaise, mais s'installe sur un gradient de relation aux autres. De fait, il s'avère que le déplacement de caractère qui fait diverger les chiens prédateurs et les chiens de garde des babouins soit ici l'élément moteur de l'interaction incroyable entre les chiens et les babouins. Ce déplacement de caractère ne joue que sur une toute petite molécule qui joue elle-même sur le stress animal. L'évolution est l'histoire de l'effet de ces multiples interactions, depuis le microbiote jusqu'aux éléphants, car les éléphants vont construire leur niche de prairie en réduisant les forêts. Il y a là une construction de niche. La force structurante des millions d'interactions agit dans des déplacements de caractère organisant les écosystèmes et l'évolution des espèces. Ainsi, par petites touches infimes, ou parfois brutales, hein, ça peut aussi exister comme cela, les divergences se mettent en place au cours d'une histoire changeante et plurielle. De même, cultiver des plantes ensemble peut réduire la charge parasitaire des unes et des autres juste à cause de la force de l'association, par la force structurante de l'interaction. La mise en place des divergences évolutives est ce qui fait la diversification du vivant, et ce sont de multiples interactions qui, pas à pas, construisent l'évolution, sans qu'il y en ait ni de bonnes ni de mauvaises interactions en soi. Le néo-darwinisme avait focalisé sur la seule concurrence, vue d'une manière très linéaire, un peu à la manière du capitalisme d'ailleurs. Il n'y a pas d'espèces utiles, il n'y a pas d'espèces nuisibles dans la nature, mais seulement des espèces utiles ou nuisibles dans l'esprit de l'homme. Ce n'est que de l'anthropocentrisme. Il devient nécessaire d'éviter des visions morales ou pessimistes qui feraient de la concurrence la seule interaction, ou optimistes qui insisteraient sur l'entraide. Non. Il existe une infinité de stratégies naturelles. Leur effet peut être positif, négatif ou neutre selon les espèces concernées. Mais ça ne résulte pas d'un plan préétabli, mais simplement d'opportunités, d'occasions évolutives, de cette incroyable aptitude à vivre les uns avec les autres. Et c'est ça qui existe comme chose fascinante dans la nature, à opérer ensemble une écologie où chacun dépend des autres et les autres de chacun, une évolution quasi libertaire en quelque sorte.
Merci Thierry pour ce beau voyage à travers les sociétés mixtes, pour ce fameux reportage qui nous a bien inspirés. Ainsi se termine donc notre émission de Science en Liberté. Auditrices, auditeurs, interprètes, vous pouvez toujours nous contacter sur l'email de l'émission sciencelibre@gmx.fr, Science Libre au singulier. Nous aurons le plaisir de vous retrouver tous les seconds lundis de chaque mois de 18h à 19h30 sur 89.4 Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, pour décortiquer la biologie et bousculer toutes les idéologies qui l'accompagnent. Ainsi se finit cette émission de Science en Liberté, animée par Thierry Laudet, avec la complicité de Siona et de Monique à Paris. La musique d'introduction était d'Hicham Chahidi. Un brin de nostalgie par Cartouche.
Une courte nuit et puis y a un téléphone qui ment et un écran vivant. Elle est si seule, tous les siens sont. magnifique enfant, un mariage réussi, une jolie maison, les vacances à la plage, des collègues bien sympas, un travail acceptable. Les années défilaient sans qu'elle s'en aperçoive. À prendre soin des siens, à s'occuper d'un bien. Si ce n'est les petits soucis du quotidien, ici tout allait bien, pourquoi chercher trop loin? De femme elle devint mère, puis elle devint grand-mère, elle fait gore camouflée par des masques d'hiver. Elle ne se souvient pas si un jour elle fut belle, et ce n'est pas la chose que l'on attendait d'elle. Son jardin, la jouissance est jetée au fond des sous-